Les parts actualités. Soyez les bienvenus à l'émission Les Paractualités du 21 février 2018. Hélène Denis avec vous. En manchette, aujourd'hui, les futurs logements et condos devront être accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement du Canada fournit de la formation axée sur les compétences et des possibilités d'emploi aux jeunes Canadiens de la région du Nunavik au Québec. Aussi des sit-in à l'hôpital de Hull. Les stylistes s'intéressent au handicap. En entrevue, je reçois Antoine Perrault, coordonnateur du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, pour nous parler du projet de loi numéro 165, loi modifiant le code de la sécurité routière et d'autres dispositions. Et je reçois aussi Gaëlle Ouellette pour nous parler de la Journée internationale des maladies rares, le 28 février. Une nouvelle tirée du site de Radio-Canada, vieillissement de la population oblige, le gouvernement du Québec imposera de nouvelles normes de construction aux entrepreneurs. Les futures habitations comprenant plusieurs logements et condos devront être dépourvues d'obstacles pour les personnes à mobilité réduite. Le code de construction de la Régie du bâtiment du Québec sera prochainement modifié. Il obligera d'ici un an les constructeurs à rendre minimalement accessibles les futurs immeubles de plus de 2 étages et comptant plus de 8 unités. Environ 34 000 nouveaux logements ou condos prévus d'ici 5 ans devront se conformer à la nouvelle réglementation. Les constructeurs pourront faire leur choix entre 2 normes. La première sera de rendre le logement ou le condo minimalement accessible, c'est-à-dire de rendre le parcours sans obstacle pour un fauteuil roulant depuis la porte d'entrée de l'habitation jusqu'à l'intérieur des pièces, de la salle de toilette à la salle de séjour et à la salle à manger. En vertu de la seconde norme, un entrepreneur pourra rendre les unités d'habitation adaptables. Le parcours sans obstacle devra alors s'étendre à la cuisine, à au moins 1 chambre et à 1 balcon. Les installations de plomberie devront aussi pouvoir être ajustables. Il en coûterait 550 $ de plus qu'actuellement pour un tel logement. Le gouvernement du Canada fournit de la formation axée sur les compétences et des possibilités d'emploi aux jeunes Canadiens de la région du Nunavik au Québec. Pour bâtir une classe moyenne prospère, il faut donner aux jeunes du Canada les outils dont ils ont besoin pour trouver un bon emploi et le garder. Aujourd'hui, la secrétaire parlementaire de la ministre des Relations couronne autochtones et des Affaires du Nord, Yvonne Jones, a annoncé un nouveau projet qui permettra aux jeunes de la région du Nunavik au Québec de recevoir de la formation axée sur les compétences et d'acquérir de l'expérience pratique de travail. Jusqu'à 100 jeunes participeront au projet qui sera mis en œuvre par l'administration régionale Kativik grâce à un financement de plus de 2,1 millions de dollars offert par le gouvernement du Canada dans le cadre du programme Connexion Compétences. Les jeunes recevront une formation d'une durée de 2 semaines afin d'accroître leurs compétences professionnelles fondamentales, notamment pour le travail en équipe et la communication. À la suite de cette formation, ils seront jumelés à des employeurs de la région afin d'acquérir de l'expérience pratique de travail dans des domaines comme l'administration et le service à la clientèle. Les participants recevront aussi un plan d'action qui les aidera à prendre des mesures concrètes pour accroître leur capacité de trouver et de conserver un bon emploi. Le programme Connexion Compétences finance des projets qui aident les jeunes confrontés à plus d'obstacles à l'emploi que leur père. Ces jeunes pourraient comprendre les personnes qui n'ont pas terminé leurs études secondaires, les chefs de famille monoparentales, les jeunes autochtones, les jeunes handicapés ou les nouveaux arrivants. Le regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, le RAC, est une fédération de 15 associations, dont 12 associations régionales, qui à leur tour rassemblent 2500 personnes vivant avec une situation d'handicap visuel, réparties dans 15 des 17 régions administratives du Québec. Alors, ça fait du monde. Et on parle avec le coordonnateur du RAC, Antoine Perrault. Bonjour, M. Perrault.
Bonjour, madame, ça va bien?
Oui. Le RAC est le projet de loi numéro 165. On en parle avec vous. Quelles sont les modifications que vous proposez concernant la sécurité routière?
C'est sûr que nous, on a proposé plusieurs modifications au code de loi actuel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le projet de modification a été déposé. Et nous, il y a plusieurs articles qui ne font pas notre affaire du tout.
Alors, qu'est-ce qui ne fait pas votre affaire?
Concernant les rues passagers et les pistes multifonctionnelles.
Les pistes multifonctionnelles, vous avez dit?
Oui,
j'ai de la misère à vous entendre.
Pardon, je suis désolé.
OK, là, ça va mieux.
Ça va mieux, pardon.
Oui, alors...
les pistes multifonctionnelles, en fait, c'est une piste où plusieurs usagers de la route vont circuler en même temps. Par exemple, un trottoir qui va inclure à la fois une piste cyclable et une piste piétonne. Mm-hmm. C'est ce qu'on va appeler une piste multifonctionnelle ou une piste polyvalente.
D'accord.
Une rue partagée, c'est un endroit où tout le monde peut circuler sur le même niveau. Par exemple, auto, vélo et piéton seraient sur un pied d'égalité sur la rue.
Oui, et puis vous avez parlé aussi...
On a à faire là-dessus.
Oui.
C'est sûr que pour nous, ce qui est proposé dans le cadre de sécurité routière est tout à fait insuffisant. Par exemple, sur une rue partagée, ce qui est proposé, c'est que tous les véhicules ne circulent pas à plus de 20 km/h, que les piétons puissent circuler où bon leur semble et que ceux-ci ont priorité. Oui, allez-y.
Non, c'est ça. Quels sont les risques pour les personnes non-voyantes en lien avec les cyclistes, les automobilistes?
En fait, partager la route, même si le principe de prudence va se plus, par exemple, que le piéton qui est entre l'auto, le cycliste et le piéton, l'usager le plus vulnérable, que les autres doivent faire attention et surtout que le piéton a priorité sur une partagée. Malgré ça, s'il n'y a pas de balise claire pour circuler puis qu'il n'y a pas une séparation physique entre, par exemple, un piéton et un cycliste ou un piéton et un automobiliste, les risques pour le piéton, surtout un piéton en handicap visuel, sont beaucoup plus élevés. Par exemple, s'il n'y a rien qui indique à un piéton où est sa voie au niveau physique, une personne qui utilise une canne blanche va avoir beaucoup de difficultés à garder une trajectoire où il va être vraiment à l'écart des autres. Il y a un risque d'empiètement qui pourrait amener des dangers assez sérieux.
Ben oui, je comprends bien. C'est dangereux pour un piéton voyant. Alors, j'imagine que pour un non-voyant, c'est encore pire. Vous n'avez pas parlé des carrefours giratoires. Vous voulez aussi des modifications en ce qui concerne les carrefours giratoires?
C'est sûr que les carrefours giratoires, bon, présentement, dans le cas de sécurité routière, ce qui est proposé dans la modification, c'est qu'une personne, un piéton, ne puisse pas traverser un carrefour giratoire. Là.
Ouais.
Je vais rapidement, c'est plus technique que ça un peu, mais c'est ce qui est proposé. Pour nous, c'est tout à fait insuffisant. Parce qu'un carrefour giratoire, c'est extrêmement dangereux. Et il y a des façons de les faire accessibles. Puis nous, c'est ça le problème qu'on a. Il y a des façons de faire des carrefours giratoires accessibles. Ça existe, ça a été documenté. Malheureusement, les carrefours giratoires qu'on voit naître de plus en plus au Québec ne sont pas accessibles.
Bon,
ils sont
tout
extrêmement
simplement.
Dangereux pour les personnes en situation d'handicap visuel. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des façons de les rendre accessibles. C'est sûr que nous, ce qu'on veut, c'est pas nécessairement de prendre un guide et qu'on l'applique automatiquement. Il faut qu'il y ait des tests utilisateurs de fait pour s'assurer que les recherches qui ont été faites mettent en place réellement un carrefour giratoire accessible. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a des façons de le rendre accessible qui sont disponibles, qui ont été produites par des experts. Et personne ne semble en prendre compte. On installe des carrefours giratoires peu accessibles. Et c'est sûr qu'un carrefour giratoire qui n'est pas accessible, qui est dangereux pour une personne non-voyante, la personne ne la traversera pas.
C'est sûr.
C'est sûr que les risques d'isolement augmentent beaucoup.
Oui. Et M. Perrault, qu'est-ce que vous pensez du principe de prudence à même le code de la sécurité routière?
C'est sûr que nous, on trouve ça intéressant. Ça a été une des demandes qu'on a fait initialement quand on a déposé un mémoire à la SAAQ concernant le code de sécurité routière. On est pour ce principe-là. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un principe.
Ouais.
C'est vraiment un beau principe, c'est intéressant. mais c'est un principe, c'est pas aussi concret que de dire, ben, si je veux partager, s'il n'y a pas une séparation complète entre piétons et cyclistes ou piétons et automobiles, on veut qu'il y ait une séparation claire et physique pour à la fois que l'utilisateur qui utilise une canne blanche puisse identifier son corridor et pour éviter que d'autres usagers de la route aient sur l'endroit réservé aux piétons.
Oui, alors vous voulez...
C'est une mesure concrète, c'est clair. Le principe de prudence, c'est intéressant, c'est un beau principe, il fallait qu'il soit présent, mais c'est pas aussi concret que, par exemple, une séparation physique ou, par exemple, un carrefour giratoire accessible. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est non seulement le principe de prudence, mais c'est aussi des choses concrètes.
Tout à fait. Alors, vous voulez, là, vous êtes en train de faire un travail de sensibilisation, c'est bien important. Puis ensuite, passons aux choses sérieuses, soit les choses concrètes. Alors, bonne chance, M. Perrault, dans vos revendications qui sont absolument légitimes.
Ben, un gros merci.
Bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Bloc régional dans le droit des sit-ins à l'hôpital de Hall. Des travailleurs de la santé ont tenu un sit-in lundi midi dans plusieurs hôpitaux de l'Outaouais afin de dénoncer leurs conditions de travail. À l'hôpital de Hall, seulement entre 11h et 13h, environ une centaine de syndiqués ont pris un peu de temps sur leur pause du dîner pour aller occuper le hall d'entrée donnant sur le boulevard Lionel-Aymon. Le geste se voulait symbolique, affirme la présidente du syndicat des travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux de l'Outaouais, Josée McMillan, qui représente quelque 4200 employés du réseau. Surcharge de travail, manque de personnel et heures supplémentaires sont au nombre des éléments ayant été dénoncés par les syndiqués. Tout le monde avait un autocollant montrant une batterie faible et on a remis un bang à chaque membre pour leur redonner de l'énergie, a indiqué Mme McMillan. La présidente du syndicat dit par ailleurs ne pas avoir apprécié des propos de la députée de Hall, Maryse Gaudreau, citée dans une chronique du droit samedi. Mme Gaudreau y déclarait que quand on dépeint tout le temps en noir un réseau ou une industrie, les gens ne veulent pas y aller. « Je l'invite à travailler sur nos départements pendant une semaine », a répliqué Mme McMillan. « J'espère pour elle qu'elle a un médecin de famille parce qu'elle va en avoir besoin après une semaine dans nos établissements. » Nouvelle tirée du quotidien.com. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean reçoit une subvention de 225 000 $ de la Fondation de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. L'argent accordé dans le cadre du programme Pour mieux soigner favorisera l'accompagnement précoce en groupe de médecine familiale lors d'un diagnostic de cancer. La région, qui compte 13 GMF, groupes de médecine familiale, sera la première à dispenser ce type de service, qui pourrait servir de modèle pour l'ensemble du Québec. Le projet a pour but d'optimiser la contribution des infirmières œuvrant en GMF dans le dessein d'offrir une approche personnalisée tout au long de la trajectoire de soins d'une personne atteinte. Souvent, les gens associent les soins palliatifs à la mort. Dans plusieurs cas, ils sont en fin de vie lorsqu'ils les reçoivent. Avec ce projet, on veut changer les choses et offrir des soins d'accompagnement tôt dans la trajectoire de soins pour que les patients se sentent moins démunis face à la maladie, a indiqué la directrice des soins infirmiers du CIUS régional, Sylvie Massé, par voie de communiqué. La présidente de la Fondation, Lynne Tremblay, a pour sa part indiqué que la subvention contribuera autant à la santé physique qu'au bien-être mental des personnes accompagnées. Avant de recevoir de la chimiothérapie ou de subir une intervention chirurgicale, le patient peut avoir des interrogations. C'est rassurant pour lui de savoir qu'un professionnel en soins est en mesure d'y répondre, a renchéri Sylvie Massé. La subvention couvre une période de 2 ans. La Journée internationale des maladies rares aura lieu cette année le 28 février et j'en parle avec Gaëlle Ouellette, généticienne et conseillère en génétique, présidente et directrice générale du Regroupement québécois des maladies orphelines. Bonjour, Madame Ouellette.
Bonjour.
Avant toute chose, est-ce qu'il y a une différence entre maladies rares et maladies orphelines?
Bien, au départ, il y en avait une. Les maladies orphelines, c'était considéré les maladies pour lesquelles on ne développait pas de traitement, donc qui étaient orphelines de traitement. Mais avec le temps, on s'est aperçu que les maladies rares étaient orphelines à bien des niveaux.
D'accord. Donc, alors, c'est pas mal synonyme.
Oui, maintenant, on trouve que c'est les maladies rares sont orphelines à bien des niveaux.
Oui. Et Mme Ouellette, à quoi sert la Journée internationale des maladies rares? J'imagine qu'il y a une grande part de sensibilisation dans cette journée-là, dans la vocation de cette journée-là.
Exactement. C'est la 11e cette année. Ça a été initié en Europe, là, qui était pas mal plus avancé là,
oui,
dans les maladies rares dans la cause. Et puis, oui, c'est d'abord et avant tout pour sensibiliser hein, aux millions de personnes à travers le monde atteintes de plus de 7000 maladies rares. Là, et ça augmente toujours le nombre de maladies parce qu'on découvre de plus en plus de causes.
Elles sont rares, mais elles sont nombreuses.
Exactement. Mm-hmm. Donc,
et quelles sont les activités proposées par le Regroupement québécois des maladies orphelines?
Ben nous, cette année, en fait, on commence une campagne. On a initié une campagne au cours du mois de février qui s'appelle « Je m'inscris pour la recherche sur le rare ». Parce que le thème cette année au niveau international, c'est davantage d'engagement des patients en recherche.
Ah oui.
Puis pour les maladies rares, là, comme chaque maladie, les personnes peuvent être peu nombreuses, il faut vraiment une collaboration internationale. Les patients cherchent des chercheurs, puis ils sont pas nécessairement au Québec, au Canada, puis les chercheurs cherchent des patients.
Ah donc, bon, alors faut faire rencontrer ce monde-là.
Exactement. Oui. Puis on collabore avec un grand projet de recherche pan-canadien qui s'appelle Care for Rare, donc soins pour les rares. Il y a des chercheurs québécois qui participent à cette initiative-là, mais c'est une initiative qui est très connue au niveau international, qui collabore au niveau international. Et on collabore aussi avec l'organisation européenne qui a Rare Connect. Donc, Rare Connect, c'est pour que les patients s'inscrivent et puis éventuellement avec le gros projet de recherche Care for Rare, les chercheurs pourront se connecter eux aussi à des patients partout à travers le monde. Le plus de patients qu'on aura pour une maladie ou une catégorie de maladie, le plus de recherches pourra se faire.
Bien, oui.
On incite les gens à s'inscrire à Rare Connect, mais même plus que ça, les organisations de patients, certaines à travers le monde, ont aussi initié des registres de maladies spécifiques pour leur maladie et qui sont ouvertes à n'importe qui dans le monde. Et on incite les gens aussi à s'inscrire à ça.
Et quand les personnes ont des diagnostics de maladies rares, est-ce qu'on leur donne tout de suite cette information-là? Est-ce que les services offerts par le Regroupement québécois des maladies orphelines inclut ce genre d'informations-là?
Oui. On veut l'inclure parce que justement, les gens n'ont pas cette information-là. Quand c'est une maladie spécifique, les gens pourraient peut-être le trouver, là, évidemment, sur avec Dr. Google. Là.
Oui.
Mais il y a aussi la question de la langue hein, pour les francophones parce que ces registres-là sont en anglais.
Bon, ça peut être une barrière.
Exactement. Ouais. Puis, donc, c'est pour ça, habituellement, là, les gens qui ont des maladies très rares, c'est plus difficile à trouver. Ensuite, il y a aussi les gens qui n'ont pas de diagnostic. Il y a des registres auxquels ils peuvent s'inscrire, eux aussi.
Mm-hmm.
Donc, ça fait partie de nos services qu'on l'a toujours fait individuellement aux gens, mais là, on veut faire cette campagne-là pour inciter les gens à être plus nombreux à s'y inscrire, puis on veut les aider. S'ils ont de la difficulté à l'ordinateur ou avec la langue, on va les aider
oui.
à s'inscrire.
Alors, il en sera amplement question, j'imagine, à la 11e Journée internationale des maladies rares.
Et, tout à fait.
Le Regroupement québécois des maladies orphelines, si on parlait un peu plus des autres services que vous offrez,
Bien, notre centre d'information, là, qui a eu plus que 600 demandes là, dans l'année qui vient de se passer, c'est tout. Hein? C'est pour l'information, mais ça peut être le soutien, l'écoute. Le soutien, on peut référer dans le système de santé à des spécialistes, à des organismes communautaires, à des services gouvernementaux, à des fondations qui peuvent aider au niveau financier. Donc, c'est notre service là, pour le centre d'information. Puis, évidemment, à côté de ça, on essaie encore toujours de la sensibilisation dans la population et le milieu médical et travailler sur une stratégie québécoise pour les maladies rares.
Et pour vous joindre le plus facilement possible, comment on fait?
Bien, si les gens peuvent aller voir, là, toutes nos coordonnées sont sur notre site Internet rqmo.org.
J'imagine que vous parlez de la Journée internationale des maladies rares sur votre site.
Oui, tout est là sur la première page, le centre d'information, la Journée internationale.
Qui va se tenir où?
Pardon?
Qui va se tenir où, cette journée?
En fait, comme je disais, c'est plus une campagne.
Ah oui, d'accord.
Fait. Donc, il n'y a pas d'activité spéciale.
Ça se tient partout.
Cette année.
Oui, oui.
Puis, c'est vraiment... en fait, ce qu'on dit aux gens, attendez pas après les chercheurs.
Oui.
C'est soyez proactifs pour participer à la recherche parce que c'est le modèle traditionnel. Hein? On attend que son médecin nous parle de la recherche ou un essai clinique. Puis, il y a quand même les registres où les gens peuvent s'inscrire pour participer à la recherche.
On retient le mot-clé, proactif.
Exactement.
Gaëlle Ouellet, un grand merci pour l'entrevue. Puis, bonne journée internationale des maladies rares. Le 28 février, on aura une pensée pour vous.
Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Au revoir. Une nouvelle tirée de la presse, les stylistes s'intéressent au handicap amputé de la jambe droite fin 2014 après un cancer des os. Jerris Madison, photographe de mode habitué au look glamour et aux semaines de la mode, essayait de s'habituer à porter une broche de titane toute sa vie. Jusqu'à ce que les designers de la petite société canadienne Alleless, qui avait repéré une photo de lui sur Instagram, lui envoient en 2016 un cache-prothèse branché à essayer. Quand j'ai ouvert la boîte, j'ai cru que c'était Noël, a raconté à l'agence France-Presse le photographe de 45 ans basé à Los Angeles. Avant, les gens me regardaient et savaient que j'étais amputée. J'étais gênée. Maintenant, ils me voient comme de l'art ambulant. Ça m'a redonné confiance. Il y a un foisonnement de design à la fois très fonctionnel et esthétiquement désirable pour les gens ayant toutes sortes de handicaps, souligne Cara McCarthy, commissaire d'une exposition au musée Cooper Hewitt du design à New York qui présente jusqu'en septembre une vingtaine de produits de cette évolution. Outre les cache-prothèses d'Alleless aux allures de tatouages géants, vendues à partir de $375, l'exposition présente des baskets Nike Fly Easy, conçus à la demande d'un étudiant atteint de paralysie cérébrale qui s'enfile comme des pantoufles grâce à une tirette ouvrant l'arrière. Également une canne tout en finesse poignée de couleurs au choix qui ne tombe plus quand on la pose contre un mur. Une prothèse auditive comme une grande boucle d'oreille. Mais beaucoup de ces nouveaux produits restent encore introuvables en magasin, étant vendus uniquement en ligne. M. Madison espère contribuer à changer les mentalités en s'affichant avec ses cache-prothèses « Dernier cri ». Dans l'essentiel.lu, les salariés handicapés souvent laissés de côté au Luxembourg. Les sociétés du pays délaissent encore trop souvent les salariés handicapés. Surtout, il existe une loi et des quotas qu'elles n'appliquent pas. C'est cette peur de l'inconnu qui prédomine, lance Martin Peters de l'Institut national pour le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises. Comment sinon expliquer cette réticence à embaucher des salariés handicapés? Selon les chiffres de l'Agence pour le développement de l'emploi, 3400 salariés handicapés occupent un emploi. 42% d'entre eux travaillent dans un atelier protégé et 40% sont dans le privé. Néanmoins, ils représentent encore plus d'un demandeur d'emploi sur 5, 3 654 personnes, soit 20,5. Pourtant, les entreprises sont tenues à des obligations légales. Les sociétés de plus de 50 salariés doivent employer au moins 2 % de travailleurs ayant le statut d'handicapé, une part qui grimpe à 4 % pour un effectif de 300 salariés dans le privé, contre 5 % pour le secteur public. Trop peu d'employeurs respectent ces quotas dans le privé et dans le public. Quant aux sanctions, elles sont peu, voire pas appliquées, regrette Info Handicap. L'Institut national pour le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises estime que ce ne sont pas les sanctions qui vont motiver à l'embauche, veut davantage sensibiliser les entreprises. La pause mieux-être du nouveau à la grande bibliothèque. Vous vivez un changement important, une maladie, une grande solitude, du stress, une séparation. Tous les mardis à compter du 5 décembre, des bénévoles du Centre d'écoute Le Havre offriront au niveau 4 de la grande bibliothèque une oreille attentive et sans jugement aux usagers de BANQ. Venez vous confier et repartez aussi avec des suggestions de lecture, de films ou de musique préparées par des bibliothécaires de la Grande Bibliothèque. La pause, mieux-être, être, écouter, recevoir des suggestions qui font du bien. Anonyme, confidentiel et gratuit. Au niveau 4 de la Grande Bibliothèque, en haut de l'escalier, tous les mardis de 13 à 16 heures, donc ça a commencé le 5 décembre 2017 et ça se poursuit jusqu'au 29 mai 2018. Merci à mes invités, Gaëlle Ouellette, qui nous parlait de la Journée internationale des maladies rares, qui se déroulera le 28 février, et Antoine Perrault, coordonnateur du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, à propos du projet de loi numéro 165, loi modifiant le Code de la sécurité routière et d'autres dispositions. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et Jean-Sébastien Laliberté à la technique. Ici Hélène Denis qui vous remercie, vous, d'avoir été présent et à l'écoute. J'espère vous retrouver demain. Bonne journée.